Auditeurs et auditrices de Radio Ndeke Luka, bonjour et encore une fois, bienvenue dans l'espace politique de votre radio Patara. Aujourd'hui, nous débattons de deux chronogrammes électoraux qui entourent les élections du 27 décembre 2020. L'Autorité nationale des élections, ANE, est confiante de son chronogramme pour tenir les élections dans le délai imparti par la Constitution. Cet optimisme de l'ANE n'est pas totalement partagé par la Cour constitutionnelle, organe de certification des élections qui sort son chronogramme au regard du retard déjà enregistré dans la mise en œuvre du processus électoral. À 10 mois des élections, l'opération de cartographie n'est pas bouclée, l'enrôlement des électeurs biométriques n'a pas encore commencé. L'inquiétude de la Cour constitutionnelle est-elle justifiée? En tout cas, la réponse venant de l'ANE est d'autant plus rassurante si l'on s'en tient aux discussions avec le cadre de concertation à Bangui. Cette assurance n'est pas celle des leaders politiques de l'opposition réunis au sein de la coalition politique CO2-2020. Si les élections ne sont pas tenues dans le temps, quel sera le scénario? L'inconnu dans le processus est la volonté des groupes armés à favoriser les élections libres, apaisées et non contestées. Si le chronogramme de la Cour constitutionnelle arrive à être réaliste, comment va-t-on gérer le glissement? Voilà les questions autour desquelles nous allons débattre cette semaine. Pour ce faire, nous recevons M. Mamad Kamoun, ancien Premier ministre, président du parti Béafrika Tiékoué, représentant la plateforme CO2-2020. M. Mamad Kamoun, bonjour.
Bonjour.
Nous avons aussi M. Thierry Zenet, représentant les pouvoirs publics et cadre du ministère de l'administration du territoire. M. Thierry Zenet, bonjour.
Bonjour.
Nous avons aussi M. Dominique Désiré Erénan, universitaire, enseignant-chercheur en droit constitutionnel à l'université de Bangui. M. Dominique Désiré Erénan, bonjour.
Bonjour Jean-Fernand, bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices.
Aussi, nous avons Origine Bekondi, représentant de l'Observatoire national des élections ONE, une organisation de la société civile. Monsieur Origine Bekondi, bonjour.
Bonjour Monsieur Fernand, bonjour à nos auditeurs.
Au centre de l'émission, appelez-moi Jean-Fernand Kouena sur les 1001 boutons. C'est le travail de Jan Stéphanie Bokula et de Herman Nambona. J'ai bénéficié de l'assistance de Claire Assamba qui observe aussi l'émission avec nous. Ne quittez pas, nous entrons dans le vif du sujet après cette transition que nous propose la technique.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Ouvrons ce débat par vous, M. Thierry Zenet, qui représentez ici les pouvoirs publics et le ministère de l'administration territoire, organe étatique qui supervise et contrôle aussi l'organisation des élections. Devant ces deux chronogrammes, quelle est la réaction du ministère de l'administration territoire, du territoire par rapport à ces deux chronogrammes aujourd'hui qui suscite aussi le débat autour de l'organisation des élections du 27 décembre 2020.
Jean-Ferrand, bonjour. Je te remercie pour cette occasion. Je voudrais tout de suite ici préciser que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation n'est pas un organe de contrôle, mais c'est l'interface entre l'ANE et le gouvernement. Donc le ministère apporte tout l'appui nécessaire à l'Autorité nationale des élections en vue de l'organisation des élections. Je voudrais tout de suite dire que ce n'est pas deux chronogrammes distincts. Nous allons nous en rendre compte. Le chronogramme de l'ANE, qu'est-ce que nous appelons d'abord chronogramme? Le chronogramme, c'est l'ensemble des activités à réaliser afin d'atteindre un objectif, mais dans des délais avec les étapes qui sont spécifiées. Et l'ANE est l'organe chargé de préparer et d'organiser les élections, comme nous le savons. Et l'ANE a sorti son chronogramme. Un chronogramme entier qui prend en compte l'ensemble des opérations préélectorales, électorales et post-électorales dans cette période-là pour faire en sorte que les élections se tiennent à la date indiquée. Le chronogramme de la Cour constitutionnelle n'est pas un autre chronogramme. C'est un outil que la Cour constitutionnelle se donne et met également à la disposition des populations, des acteurs du processus électoral, afin d'attirer leur attention sur les délais légaux
par rapport à l'organisation de certaines activités, ces délais qui sont prescrits dans le code électoral. C'est à ce niveau-là que nous devons comprendre l'existence de ces deux chronogrammes, mais ce ne sont pas deux chronogrammes différents.
Nous comprenons, mais la publication de ces chronogrammes vise à rassurer les parties prenantes au processus électoral de l'étape de pas à franchir au fur et à mesure dans l'évolution du processus. Mais si aujourd'hui nous sommes en face d'un chronogramme technique et de l'autre côté d'un programme juridique qui parfois rappelle qu'on est déjà en retard, est-ce que cela vous rassure au niveau du ministère de l'administration du territoire?
Au sortir de la journée d'information organisée par le cadre de concertation, vous l'avez si bien soulevé ici, l'ANE nous a rassuré que son chronogramme tient, qu'elle tiendra la date du 27 décembre.
Ok. Monsieur Mamad Kamoun, vous êtes le vice-président de la plateforme de l'opposition démocratique en Centrafrique réunie au sein de COD 2020. Vous vous inquiétez beaucoup plus aujourd'hui de la mise en œuvre de ces chronogrammes et pour vous, tout porte à croire que les élections ne vont pas être tenues en bonne date. Qu'est-ce que cela qui peut justifier aujourd'hui votre prise de position?
Je vous remercie. Mais vous me prêtez des intentions.
Mais c'est ce qui a été dit par le président de cette plateforme.
Ok. Je voudrais dire que je ne suis pas vice-président. Au niveau de la coalition de l'opposition démocratique 2020, nous avons un président, hein, la personne de Anissé Georges Doléguélé, pour un mandat de 3 mois. Ensuite, il y aura un autre président, ainsi de suite. Je suis là en tant que représentant de la COD 2020. Ce que je voudrais dire pour compléter notre frère Zenette, l'intérêt de ce chronogramme, c'est quoi? C'est pour dire aux uns et aux autres qu'au regard de notre constitution, du code électoral, si vous voulez que les choses se passent bien, eh bien, il faut respecter ces dates-là. Point bas. Sinon, on va avoir des problèmes. C'est ça qu'il faut comprendre du chronogramme de la Cour constitutionnelle. L'ANE, l'Autorité nationale des élections, de son côté, a aussi sorti ce chronogramme qui, en fait, est un chronogramme technique qui prévoit les étapes, les activités qu'elle est censée mener pour atteindre le but qui est l'organisation des élections aux dates prévues. Et elle est partie même plus loin pour sortir un budget prévisionnel. Je crois qu'on parle de 33 milliards pour l'ensemble des opérations électorales, c'est-à-dire que les présidentielles, législatives, sénatoriales, ceci, cela, tout ça. Et attends, si vous me donnez les moyens, moi je vais travailler. Voilà ce qu'il faut comprendre derrière l'organigramme, le chronogramme de l'ANE. C'est-à-dire que c'est en termes de dire, voilà ce que je dois faire, voilà les moyens qu'il me faut, et donnez-les-moi, je vais travailler. Voyez-vous? Donc, en principe, comme l'a dit le représentant du ministère de l'administration du territoire, ces deux chronogrammes se superposent. C'est-à-dire que l'ANE doit se fonder, s'appuyer sur le côté juridique pour qu'on puisse avancer, conformément aux dispositions de la loi. Maintenant, on va aller dans les détails pour voir si, oui ou non, pourquoi. On va vous dire pourquoi ce chronogramme n'est pas tenable.
Justement, on va revenir tout le long de ce débat. Monsieur Origine Bekondji, vous avez suivi le représentant du ministère de l'administration du territoire, monsieur Thierry, et vous avez suivi aussi monsieur Mamad Kamoun de ces deux interventions. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ces deux chronogrammes, que vous inspire l'organisation de ces élections? Est-ce que ces élections vont être tenues en bonne date le 27 décembre 2020?
Je vous remercie d'abord. Je ne veux pas tirer déjà une conclusion hâtive dès maintenant. Mais ce que moi je veux d'abord dire, c'est d'abord le chronogramme, ce n'est pas l'ensemble des activités comme le directeur des élections venait de le dire. C'est un calendrier qui fixe les délais imprescriptibles de toutes les activités liées aux élections, liées à la préparation des élections qui sont contenues dans le code électoral. Et donc le chronogramme ne prend pas seulement en compte l'aspect juridique. Mais il y a aussi des aspects climatiques qui doivent être observés dans le cadre du chronogramme. Quand vous prenez l'avant-projet du chronogramme des élections générales de l'ANE, vous allez voir qu'il y a les opérations juridiques qui sont prévues, mais il y a également des délais qui prennent en compte l'aspect climatique. Maintenant, de deux, je suis vraiment désolé de dire au Premier ministre Kamoun que la Cour constitutionnelle n'est pas dans sa compétence de produire un chronogramme, ni la Constitution du 30 mars 2016, ni la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle lui confère la compétence d'établir un chronogramme des élections et de convoquer la presse pour le rendre public. La Cour constitutionnelle pouvait faire une proposition de chronogramme et qu'elle pouvait donner tout simplement à l'ANE pour que l'ANE, qui est dans sa mission d'organiser les élections, d'établir le chronogramme conformément à la Constitution, puisse le rendre public, puisse maintenant nous produire un chronogramme définitif et non un avant-projet de chronogramme.
Donc, aujourd'hui, si je vous comprends bien, la Cour constitutionnelle est en train de faire de l'ingérence.
La Cour constitutionnelle a usurpé cette compétence. Et je pense que si l'interprétation, le temps m'est donné de faire l'interprétation, je pourrais même dire que la Cour constitutionnelle a violé la Constitution.
Ok. Monsieur Dominique Désiré Renaud, vous êtes universitaire enseignant en droit constitutionnel à l'Université de Bangui. Quelle est votre analyse de ces discours et aussi de cette sortie?
Merci. Je voudrais faire observer pour ma part que nous sommes ici pour parler des élections.
Yes.
L'élection, ce n'est pas un jeu, c'est une compétition, certes. Mais ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose de très très sérieux. Et ça engage la vie des Centrafricains pendant 5 ans. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est celle de savoir est-ce que les élections seront organisées à bonne date, c'est-à-dire dans le délai constitutionnel. Et le délai constitutionnel, c'est le premier tour doit avoir lieu au plus tard, le 27 décembre 2020, qu'il s'agisse de l'élection présidentielle ou bien des élections législatives. Au jour d'aujourd'hui, il y a un retard. Il y a un retard dans la préparation. Et je vais commencer par faire observer aussi que dans notre pays, nous avons eu des élections qui ont été contestées du fait de l'impréparation. Il y a eu des élections contestées parce qu'elles n'ont pas été bien organisées. Je me rappelle des élections du 15 mars 1981 qui avaient été très contestées, qui avaient vu la réélection de David Dacko, et ça a été très contesté et on a vu les conséquences. Coup d'État plus tard, au mois de septembre de la même année. Nous avons eu les élections mal organisées de 92. Ça a laissé des traces. Nous avons aussi eu les élections du 23 janvier 2011. Ça a laissé des traces. Ça a donné lieu à quoi? À une coalition qu'on appelait le FAR, Front pour l'annulation et la reprise des élections 2011. Et ça nous a amené très très loin. Donc, moi en tant que citoyen, aujourd'hui, je pense qu'il y a un retard dans la préparation des élections. L'élection, c'est un processus. Et donc, un processus, c'est plusieurs étapes. Il y a des étapes de ce processus qui aurait déjà dû être réalisé. Mais au jour d'aujourd'hui, elles ne le sont pas. La question, par exemple, de la mise en place par l'ANE des comités d'immatriculation des électeurs, un mois avant les opérations d'inscription, etc. Ça, c'est l'article 14, alinéa 3 du Code électoral. Et vous avez la question du vote anticipé des militaires. Ces questions-là devaient déjà être évacuées. Et ce n'est pas encore le cas. Vous avez la question de l'enrôlement des électeurs. L'enrôlement des électeurs, ça ne va pas se faire au mois d'août. Ça va se faire au mois de, c'est pas moi, au mois de mai. Ça aurait déjà dû commencer, c'est-à-dire le 2 janvier 2020. Pour qu'on puisse respecter le délai constitutionnel du 27 décembre, il faut que certaines opérations puissent être déjà réalisées. L'enrôlement des électeurs, vous savez que c'est crucial. Il n'y a pas d'élection sans droit de vote. Il n'y a pas de droit de vote sans électeurs effectivement inscrits. On ne peut aller voter que lorsque on s'est fait enrôler et qu'on dispose d'une carte d'électeur pour pouvoir aller le jour du scrutin porter le bulletin dans l'urne. Aujourd'hui, cette opération cruciale qui est celle de l'enregistrement des électeurs n'a pas encore été réalisée. Elle n'a pas commencé. Et donc, il y a déjà un retard. Et je ne sais pas si ce retard sera rattrapé puisque l'Autorité nationale des élections nous rassure que les élections seront tenues à bonne date. Très bien, mais nous, on attend de voir.
Monsieur Thierry Zénette, vous avez suivi, Monsieur Origine Bekondi qui a fait une observation par rapport à votre développement, mais aussi le nœud de ces élections, c'est parfois la question financière, la question d'argent. Est-ce que ces choses-là ne constituent pas pour l'ANE d'organiser des élections à la va-vite?
Les finances sont extrêmement capitales dans l'organisation des élections. C'est l'une même des conditions importantes pour l'organisation des élections, les finances. Je parle sous le contrôle du Premier ministre Kamoun. Lors de la transition, l'État, malgré toute la difficulté qu'il avait, s'est battu pour mettre un milliard de francs pour aider à l'organisation des élections. Aujourd'hui, nous savons que le gouvernement a quand même mis 3 milliards 200 millions, ce qui permet à l'ANE d'organiser les activités en ce moment. La question de l'enrôlement des électeurs au cours de la journée d'information. Et c'est pourquoi je plaide à ce que l'ANE nous sorte un chronogramme, pas un avant-projet, le chronogramme. L'ANU nous a rassurés que 12 000 agents recenseurs seront recrutés pour l'enrôlement dans un délai, mais vraiment raisonnable, afin que certains temps soient rattrapés. Ça, c'est ce qui avait été déclaré par le rapporteur général de l'ANE et soutenu par Madame la Présidente de l'Autorité nationale des élections. Donc, l'ANE a peut-être, sûrement, des approches qui lui permettront de rattraper certains délais, mais il faudrait bien que, pour qu'on suive l'ANE normalement dans sa progression, il nous faut un chronogramme. Pas un avant-projet de chronogramme, ni un projet de chronogramme, mais un chronogramme.
Ok, mais l'autre question qui est beaucoup plus technique, c'est que lors des dernières élections, l'ANE avait l'ambition de faire l'enrôlement des électeurs une semi-biométrie. Mais aujourd'hui, avec ce retard, avec les biométries, est-ce qu'on ne va pas retrouver les mêmes problèmes que l'ANE a eu par le passé?
La question de la biométrie était une question que, personnellement, hein, lorsqu'il s'agissait de réviser le code et d'introduire la question de la biométrie, je m'étais posé simplement qu'on n'avait pas non seulement les moyens techniques, mais encore les finances nécessaires. Aujourd'hui, l'ANE dit, hier, c'était une carte d'électeur sans photo, ce qui pouvait justement prêter à beaucoup de suspicions. Aujourd'hui, l'ANE voudrait qu'il y ait, c'est pas seulement l'ANE, tous les acteurs avaient été consultés à propos, le mécanisme est présenté et les acteurs ont validé qu'il faudrait une carte d'électeur avec photo de l'intéressé. Donc c'est sur ce principe-là que les différents acteurs du processus et l'ANE se sont convenus. On attend le moment venu pour aviser.
Monsieur Mohamed Kamoun, vous êtes montré inquiet de la situation actuelle quant à l'organisation crédible des élections avec l'allure où vont les choses.
D'abord, je voudrais réagir par rapport à l'intervention de notre jeune frère. On ne peut pas reprocher à la Cour constitutionnelle, qui est l'organe clé, c'est devant elle que les dossiers de ces opérations finissent, atterrissent. C'est elle qui valide ou invalide les élections. Et que les gens font leur travail. Attendez, ce n'est pas pour faire le procès de l'ANE, de leur chronogramme. Et Renaud a insisté dessus. Ils ont prévu un certain nombre d'activités. Moi, quand je regarde ce chronogramme, depuis la seule chose qui est produite, puis être réalisée, c'est le code électoral que nous avons ici. La loi organique n'a pas eu lieu.
Il y a quand même la cartographie qui a été réalisée.
C'est fini?
Sur une partie du territoire.
Mais non, mais cette élection, vous savez, il y a quelque chose de plus complexe dans le processus électoral que les gens ne comprennent pas. On ne peut pas mener une activité de manière partielle et laisser passer à une autre activité. C'est ce qu'on appelle le chemin critique. S'il y a une opération, que ça se fasse simultanément sur toute l'étendue du territoire. Je parle sous le contrôle de notre frère Zénith. On ne peut pas faire seulement la cartographie pour une partie du territoire et laisser une autre. Tout comme on ne peut pas faire l'enrôlement sur une partie et laisser une autre. Et il faut finir d'abord la cartographie avant de passer aux autres. Donc, si vous voyez tout ça là, prévu depuis jusqu'à l'autre, ils ont laissé des portes. Je voudrais vous dire une chose. Une élection ne se limite pas seulement au niveau des chronogrammes. Une élection, c'est beaucoup plus autre chose, ou bien au niveau de promesses de financement. Jusqu'ici, concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a les deux chronogrammes, on a les promesses de financement qui sont annoncées par les partenaires techniques et financiers de la République centrale. Mais une élection, c'est aussi les conditions sécuritaires. Une élection, c'est aussi la mobilisation effective de ces financements. Et une élection, c'est aussi les conditions climatiques, il vient de le dire. Et une élection, il y a aussi des éléments impondérables. Donc ça, c'est des choses que personne de maîtrise. Deux, on a promis les financements et autres. Mais quand on sait les centres de décision, de déblocage de ces fonds-là, ça ne se trouve pas ici à Bangui, c'est à l'extérieur. Et les gens, leurs procédures, les gens, leurs urgences, ils prendront le temps qu'il fallait prendre pour décaisser, etc. C'est pour ça que nous nous inquiétons. Nous disons, attention, et Renaud l'a dit, on constate déjà des retards. Et au jour d'aujourd'hui, les choses ne semblent pas trop bouger. Mais n'allez pas demander, chacun fait son travail, je reviens encore dessus. L'ANE va vous dire, débat de cadre de concertation, les gens disent, voilà. Moi, je pense que...
Origine Bekondji, en suivant le développement ministre, Mohamed Kamoun ici, nous tout porte à croire que nous allons vers ces élections avec des conditions qui ne sont pas encore réunies. Qu'est-ce que vous en pensez?
Avec des conditions qui ne sont pas encore réunies, je pense qu'il faut relativiser ça un peu. Nous avons eu au niveau de l'Observatoire national des élections la chance d'avoir des données techniques sur la mobilisation des ressources. Nous avons d'abord été les premiers à nous inquiéter sur cette question d'argent, mais aujourd'hui, le gouvernement a déjà mis 3,2 milliards à la disposition de l'ANE. Et l'Union européenne a déjà signé le chèque pour le déblocage des 15 millions d'euros. Et donc, je pense qu'avant même la fin du mois de mars, entre les quinzaines, je pense que l'argent, la part de contribution de l'Union européenne sera déjà disponibilisée. Ça fait déjà presque la moitié du budget, parce qu'il y a certains partenaires, tels que le Japon, qui a rassuré qu'elle va donner que du matériel. Et il y a l'Angleterre aussi, qui est en train de vouloir donner sa contribution pour le processus électoral. Et donc, pour l'organisation des élections présidentielles et législatives, on peut déjà espérer que l'argent de l'Union européenne, la part du gouvernement, que nous sommes en train toujours d'encourager, pourrait déjà permettre à l'organisation de ces deux scrutins. Maintenant, en ce qui concerne la question du chronogramme des élections, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a un retard, mais ce retard-là est dû aux groupes armés. Parce que là, l'opération de cartographie de l'aire géographique numéro 4 n'est pas encore démarré parce que Ali Darassa constitue le principal obstacle. L'ANE est obligée d'aller négocier. Et la présidente nous l'a dit lors de la journée d'échange avec le cadre de concertation. Elle est obligée d'aller négocier, ça n'a pas marché. Elle a écrit à la MINUSCA pour demander à la MINUSCA d'intervenir auprès de Ali Darassa afin de permettre aux agents de l'ANE, aux agents cartographes de l'ANE de se déployer dans la basse Koto, y compris à Lindao et tout ça, dans le Mbomou et le Mbomou. Et donc voilà aujourd'hui la difficulté. C'est cette question-là que nous trouvons très essentielle. Je vous en prie, n'est pas prévu dans la Constitution ni dans aucune loi.
Donc si vous comprenez bien, la Cour constitutionnelle a péché en aidant tout en violant les dispositions de la loi. Donc il faut aider légalement.
Oui, très rapidement sur cette question, nous devons la vider. En tout cas, nous sommes les fils de ce pays. Et nous parlons en tant que juristes. Et juridiquement, la Cour est fondée. Il n'y a aucun obstacle. C'est un outil d'information et de prévention que la Cour a sorti. Un outil d'information pour dire, attention, vous les acteurs du processus, voilà comment ça devait être fait.
Crédibilité.
Voilà, okay. En tout cas, bon, voilà.
Ok, monsieur Dominique Erena, aujourd'hui, l'autre aspect qui échappe à tout le monde, y compris le gouvernement, c'est la volonté aujourd'hui des groupes armés d'apporter leur part de contribution à organiser des élections saines. Pensez-vous qu'avec l'attitude aujourd'hui des groupes armés, les élections sur présomption de bonne volonté de l'ANE vont être tenues?
D'abord, sur la question de chronogramme juridique établi par la Cour constitutionnelle, à mon avis, il n'y a pas d'antinomie entre l'avant-projet de l'ANE et le chronogramme tel que proposé par la Cour constitutionnelle. Je pense que les deux institutions sont dans la dynamique d'aider à faire les choses au mieux. En fait, quand on prend le chronogramme, quand vous prenez le chronogramme électoral juridique de la Cour constitutionnelle, quand vous le regardez, en fait, il s'agit des étapes mais calées dans le délai qui doivent être réalisées pour qu'on arrive à tenir la date du 27 décembre. Et que si on ne respecte pas ces différentes phases-là, qui sont bien fixées dans la Constitution et dans le code électoral, eh bien, on risque de ne pas avoir les élections le 27 décembre. C'est le sens, à mon avis, c'est le sens du travail que la Cour constitutionnelle a fait. Et je pense que ça vient en complément du travail que l'ANE est en train de faire. Parce que, au lieu d'attendre que l'ANE se plante en ce qui concerne les différentes étapes, et pour pouvoir annuler après les élections, ce qui serait dramatique pour le pays, je pense que c'est à bon droit que la Cour constitutionnelle a choisi de faire un travail ex ante pour éviter qu'on arrive plus tard, au moment de la proclamation des résultats, à une éventuelle annulation du scrutin. Il n'y a pas d'élection sans financement. Origine Bekondi nous a informé ici que, d'après ses calculs, on aurait déjà à peu près la moitié des fonds pour l'organisation des deux scrutins. À peu près 18 millions, 15 millions de l'Union européenne. Et puis 3,2 milliards pour le gouvernement, ça peut nous faire déjà 18 milliards, à peu près, je ne sais pas moi. Ça peut organiser déjà les deux scrutins.
Plus mais, la contribution du PNUD.
Du PNUD. Mais il n'y a pas que les conditions financières. Il n'y a pas que les conditions financières. Vous savez, je vais vous rappeler quelque chose. Nous sommes en train de parler des élections. Les élections, c'est du domaine de la Constitution. Que dit la Constitution du 30 mars 2016 par rapport aux élections? Si vous voulez,
que moi je donne mon avis, je vais vous donner mon avis en tant que juriste, en tant que constitutionnaliste.
C'est justement pour ça voilà. que vous êtes invité.
Et pas autre chose. Donc, si nous parlons des élections, on doit se référer, en ce qui me concerne, à la Constitution. Quelles sont les dispositions de la Constitution qui sont relatives à l'élection ? L'élection que nous appelons de tout notre vœu, ça doit se dérouler au suffrage universel direct. C'est pour dire quoi ? Suffrage universel, c'est un impératif. Hein ? C'est un impératif. On doit avoir une élection au suffrage universel direct. C'est universel pourquoi ? Ça dit que c'est l'ensemble des citoyens centrafricains qui doivent voter. Ceux qui sont en âge de voter, ceux qui remplissent ce qu'on appelle les conditions objectives pour pouvoir voter, eh bien, il faut que tous les centrafricains qui remplissent ces conditions objectives-là puissent effectivement voter. Je dis tous les centrafricains, pas les centrafricains qui sont ici au niveau de Bangui ou bien au niveau, c'est pas mal, de quelques préfectures, je dirais, relatives. Mais y compris les citoyens qui sont dans les zones occupées par les groupes rebelles, ces citoyens-là doivent voter. C'est ça le sens du suffrage universel. Voilà. C'est ça le sens. Mais c'est des rebelles. C'est le sens. C'est des rebelles. Disons les choses telles qu'elles sont. C'est des rebelles. Donc, c'est les citoyens qui se trouvent dans les zones occupées par les groupes armés doivent pouvoir voter. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'ANE peut circuler sereinement, tranquillement, dans les zones occupées par les groupes armés pour pouvoir aller enrôler les électeurs ? J'ai parlé de la phase d'enrôlement des électeurs. Si on veut un suffrage universel, eh bien, il faut qu'il y ait l'inscription de tous les centrafricains qui sont en âge de voter dans les différentes contrées de notre pays. Mais est-ce que ça sera le cas, effectivement, dans les zones occupées par les groupes armés ? Non. Non. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Il faut que soit les groupes armés puissent vraiment aller dans le sens de l'application effective de l'accord politique pour la paix et la réconciliation du 6 février 2019, qu'ils s'auto-dissolvent. Qu'ils disparaissent du paysage politico-militaro-institutionnel de la République centrafricaine. Moi, je pense que ça suffit. C'est depuis 2013 qu'ils existent. Ils ont capté le pouvoir. Ils l'exercent de façon indirecte. Ils sont là, dans les différentes institutions. Mais la Constitution ne leur fait pas de la place. Ils vont exister jusqu'à quand ? Il faut qu'il y ait la sécurité sur toute l'étendue du territoire pour permettre à l'ANE de faire son travail. Aujourd'hui, on a observé qu'il y a déjà un retard. Mais ce retard, c'est aussi dû aux conditions sécuritaires, comme l'a dit Bekondi. Il faut que les groupes armés comprennent cela et laissent l'ANE aller faire son travail, non pas seulement Bangui, mais sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'est le suffrage universel. Le suffrage direct. Les centrafricains n'ont pas besoin d'intermédiaires. Le suffrage est direct, c'est-à-dire qu'ils doivent voter sans intermédiaire leurs représentants, le président de la République et les différents députés. Ça ne doit pas se faire, c'est pas moi, au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas un suffrage universel indirect, hein, c'est un suffrage universel direct. On doit voter, mais sans intermédiaire. On ne va pas passer par des, c'est pas moi, des quelques représentants qui vont à leur tour voter pour le président et voter pour les députés. C'est ça le sens de la Constitution. Aujourd'hui, il y a ce retard. Et puis, de deux, il y a des conditions qui doivent être remplies, les conditions financières, les conditions politiques, les conditions sécuritaires notamment.
Vous êtes inquiet, monsieur le Premier ministre Mama Kamoud.
Oui, juste deux mots pour compléter.
En ce temps, vous avez organisé les élections avec les groupes armés. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question mérite d'être posée ? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution pour que les armes se taisent et organiser les élections, même si les groupes armés ne se désarment pas ?
Moi, je ne connais pas les relations qu'il y a entre le gouvernement actuel et les groupes armés, hein. Ça veut de nous dire, mais moi, à l'époque, nous avons amené les groupes armés en prélude aux élections. C'est parti à Brazzaville, arrivé à Bangui, ça n'a pas été respecté. Même pas un mois, il y avait eu des hostilités sur le terrain, ici à Bangui. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a abandonné purement et simplement les conclusions des pourparlers et on a organisé une réunion. On a signé le 10 avril 2015 avec eux au stade 20 000 places. Pour les inviter à aller au forum de Bangui, à faciliter aussi l'organisation sur les 16 préfectures. Ça s'est bien déroulé dans 11 préfectures sur les 5. Ça posait problème. Et nous avons tapé le poing sur la table. Nous étions partis à l'extérieur à Addis Abeba pour faire comprendre à la communauté internationale que non, si nous ne faisons pas ces consultations dans les 5 préfectures, à savoir Nanagribizi, le Bamingi Bangoran, la Haute Koto, la Vakaga, la Waka, mais comment voulez-vous qu'on aille aux élections dans 6 mois, dans quelques mois ? Et c'est fait. Nous avons réussi à le faire. Ils sont partis, on a signé cet accord, pour aller au forum. Et au forum, ils ont accepté, ils ont pris l'engagement de faciliter l'organisation des élections. Et c'est comme ça que nous avons réussi à le faire sans désarmement. Moi, je ne sais pas comment les autorités actuelles négocient avec les rebelles. Mais ce qui est sûr, les conditions sécuritaires sont déterminantes pour une bonne élection. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'optimisme de notre frère observatoire des élections, il est le représentant de l'observatoire, pour le dire, c'est pas à titre personnel, il parle au nom de son institution. Et cet optimisme qui est aussi partagé par beaucoup de ces acteurs, que le gouvernement, la communauté internationale et même l'ANE, puisqu'ils disent que non, on va tenir, on va tenir. Moi, ça commence à devenir inquiétant. Nous n'allons pas dormir sur les lauriers parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Une élection, ce n'est pas seulement l'argent. Même si on réunit tout aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on va... Une maison, même une maison. Mais il faut un délai pour que les bétons couler, puissent se renforcer. Il faut ceci, il faut cela. C'est un plan. Et je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle le chemin critique. Critical path. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, il a dit, la question de fichier électoral fiable. Vous pensez que c'est de la blague? La RCA, c'est quand même un pays qui est vaste. On n'est certes pas nombreux, mais c'est quand même un pays... plus de 600 000 km².
623 000.
Et un pays qui n'a pas d'infrastructure. La situation s'est fortement dégradée par rapport à 2016. Moi, je vous parle en connaissance de cause. Les tensions, les violences dans les pays. Vous vous rendez compte, une ville comme Bria, qui a 50 000 et maintenant 10 000 viennent s'ajouter. Vous pensez, vous, M. Koïna, vous allez être dans un camp de déplacés avec toutes les pressions et machines. Quel courage vous allez avoir pour aller vous inscrire pour voter. Il y a tout ça là qu'il faut composer avec. Moi, je pense que même si l'argent était là, même si on a fait des promesses, que oui, on va donner de ceci, de cela. Et d'ailleurs, je rappelle à M. Bikondi, parlant des dons en nature, en 2016, l'Afrique du Sud a fait un don de 1200 ordinateurs pour aider au processus. Je pars sous le contrôle de Zenith. Et plus de, combien, une trentaine de véhicules. Ils ont fait la promesse, mais ils n'ont pas assuré le transport à Bangui. Nous nous sommes battus. On a envoyé des gens, on a voulu utiliser les compatriotes qui sont des sociétés de transit. Mais on a calculé le coût de transport de ces matériels de Pretoria à Bangui dépasse la valeur de ces biens. Le PASEC, les Nations Unies que vous évoquez, ils ont dit, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a fallu l'intervention. Heureusement, nous étions au sommet sino-africain à Johannesburg et quelque chose, j'ai approché le président Guéma pour lui dire que, monsieur le président, on a des problèmes. Quel problème, monsieur le président? J'ai dit, voilà, l'Afrique du Sud nous a fait des dons pour aider, mais malheureusement, on a des difficultés de transport. Si vous pouvez nous aider à transporter ces matériels. Parce que même le transport, c'était venu par bateau. L'Afrique du Sud jusqu'à Pretoria pour aller à un port quelque part et puis de là-bas jusqu'à Douala, de Douala à Bangui. On ne devait même pas avoir ce matériel. Dieu merci, le président a accepté, le président Guéma. Il a mis un pont aérien qui a acheminé tout ça. Et même pour l'acheminement, on a eu des problèmes parce que les véhicules devaient être acheminés. On n'a pas de plaque, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Deux, les Chinois ont donné combien? Plus de 1200 véhicules. Vélos, non? 600 motos.
10 000 vélos. Mais,
vous savez comment on a fait pour amener ces matériels-là ici, en pièces détachées? Oui. Vous savez comment on a fait pour remonter ces motos et autres, tout ça là? Il fallait utiliser même des gens qui sont venus de Cameroun pour monter. Parce que, vu le nombre, nos mécaniciens ici
et le temps,
c'est pas possible. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas un phénomène, c'est pas un processus qu'on peut prendre à la légère pour dire oui, on a l'argent, oui, on a ceci, ça va se faire. Non! Il y a des contingences, il y a des contraintes, il y a des ceci. C'est pour ça que nous nous inquiétons. Aujourd'hui, on est à 10 mois et la situation n'est pas la même. Elle a s'est fortement détériorée. C'est pour ça que nous sommes en droit quand même d'émettre des inquiétudes, de dire aux gens, non, il y a des problèmes. Et au niveau de la Code 2020, vous allez voir dans les jours à venir, nous faisons de cette question du processus électoral une question clé. Donc, j'en ai fini.
Ok, monsieur le Premier ministre, monsieur Zenith, aujourd'hui, l'aspect qui échappe au contrôle de tout le monde, c'est la volonté des groupes armés. Est-ce que, au niveau des pouvoirs publics, cela constitue pour vous une inquiétude aujourd'hui?
Il faut qu'on se le dise clairement. Les élections elles-mêmes sont une inquiétude. La volonté est là. Les efforts se font. Voilà pourquoi j'insiste, et le gouvernement, je pense, mon département, je ne parle pas au nom du gouvernement, mon département insiste pour que l'ANE sorte un chronogramme. Et lorsque le vrai chronogramme définitif. Est sorti, le chronogramme définitif est sorti, sur les points qui interpellent, chacun des acteurs apportera sa contribution, dira qu'est-ce qu'il propose pour que nous allions effectivement aux élections le 27 décembre que de rester dans des débats. Parce qu'il n'y a que ce chronogramme-là qui va nous déterminer pour dire sur tel point, qu'est-ce que nous devons faire pour effectivement réaliser ce point? Quels sont les éventuels blocages? Quelles sont les éventuelles possibilités? Et on prend ces réponses à ces blocages-là, on les utilise pour avancer. Okay. Voilà un peu ce à quoi nous pouvons orienter nos efforts dans ce sens-là pour essayer d'améliorer le processus en cours.
Ok, monsieur Origine Bekonzi, la dernière résolution sur la MINUSCA en Centrafrique lui donne aussi cette possibilité de s'impliquer dans le processus électoral alors que la situation de sécurité aujourd'hui, l'ANE est empêchée. Est-ce qu'avec ça, vous pensez que la MINUSCA aujourd'hui peut être la clé de voûte pour essayer de dénouer cette situation?
Oui, je pense que la MINUSCA a reçu un mandat conformément à la résolution du Conseil de sécurité pour assurer la coordination de l'assistance électorale nationale et internationale à l'Autorité nationale des élections. La MINUSCA aussi a reçu mandat d'apporter son appui logistique au processus électoral. La question que je voudrais aussi souligner ici, en écoutant le Premier ministre Cameroun, il a parlé de la fiabilité de la liste électorale. Qui dit fiabilité de la liste électorale dit que les citoyens doivent être détenteurs des pièces exigées par le code électoral. Or, aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'article 15 du code électoral, il y a la carte nationale d'identité, il y a le passeport, il y a le livret militaire, il y a le livret de pension civile ou militaire. Et bon, l'acte de naissance accompagné de deux témoins. Or, lorsqu'on prend la question de la carte nationale d'identité, on est à 10 mois des élections et on est à quelques semaines de l'opération de refonte de la liste électorale. Les citoyens n'ont pas la carte nationale d'identité. Ça peut être aussi un facteur qui pourrait compromettre la transparence de ce procès. Parce que à l'article 6, le code électoral refuse le droit aux étrangers de se faire inscrire sur la liste électorale.
Et surtout qu'on va voter voilà. Avec les réfugiés aussi.
Et voilà, avec les réfugiés. Donc il faut mettre tous les moyens de notre côté pour que les choses... Voilà. Bien. Maintenant, le dernier point que je voudrais aborder avant de finir, c'est la question de la loi organique de l'Autorité nationale des élections. Cette loi organique de l'Autorité nationale des élections a été remise au gouvernement. Et le projet de rapport de la commission élargie a été remis au gouvernement par le président de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas vraiment normal parce qu'un rapport de la commission élargie, c'est un acte parlementaire. Ce n'est pas un acte de l'exécutif. Bien, c'est arrivé au ministère de l'administration du territoire et mon grand frère Zénette qui est à côté de moi, il est dans le comité qui a pu étudier ce rapport-là, qui a souligné les points de divergence entre l'Assemblée nationale et le gouvernement sur cette question-là. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est déjà reparti là-bas parce qu'il y a une session extraordinaire qui va être suivie d'ici peu par une session ordinaire. On doit arriver à clore le débat sur la question de cette loi organique parce que cela aussi pourrait constituer un facteur de blocage.
Monsieur Dominique Irino, qu'est-ce que vous pensez du mandat de la MINUSCA sur l'aspect sécuritaire avant qu'on donne la parole de fin à vos co-débatteurs?
Moi, il y a une question. Vous avez parlé du délai concerné, mais là, on est en train de l'occulter. Là. Oui. Alors que c'est une question assez sérieuse. Donc, si vous permettez, je vais changer de question. Voilà. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, je vous dis, en tant que citoyen, je suis inquiet aujourd'hui. On est inquiet parce qu'il y a un retard dans la préparation des élections. Et pour faire court, si on n'arrive pas à tenir le délai, que se passerait-il? Si on n'arrive pas à tenir le délai, que se passerait-il? C'est une hypothèse, je vous dirais, très préoccupante. C'est une hypothèse politique très préoccupante. Source de grosses inquiétudes et je dirais même potentiellement de troubles dans le pays. Parce que si on n'arrive pas à tenir le délai du 27 décembre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va arriver à l'échéance du mandat du président de la République. Même si les députés, eux, leur mandat va continuer jusqu'au 3 mai 2021, eh bien, le mandat du président prendra fin le 30 mars 2021.
Non, on vous dira qu'il y a eu une jurisprudence par le passé.
Quelle jurisprudence?
En 2010, on a eu prorogation du mandat de président.
Mais ce que moi je vais vous dire tout de suite, c'est que la constitution du 30 mars 2016 est assez claire. On ne peut pas proroger le mandat du président de la République pour quelque motif que ce soit. C'est l'article 35, alinéa 3 de la constitution du 30 mars 2016. On ne peut pas proroger pour quelque motif que ce soit. Donc c'est pour dire
c'est partant de certains exemples au 30 en
mars, arrivé au 30 mars,
cette disposition a été mise.
Arrivé au 30 mars 2016, c'est l'expiration du mandat du président. Et qu'est-ce qui va se passer ? Dans les quartiers, on raconte qu'il y aurait une transition. Tout de suite. Mais moi, en tant que juriste, je peux vous dire qu'il n'y aura pas une transition tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer ? Et ce serait plutôt une période de vacances du pouvoir. Parce que le mandat du président arrive à expiration le 30 mars, immédiatement, d'un point de vue constitutionnel. Ce n'est pas une transition politique, comme certains le disent, ou bien c'est peut-être le rêve, mais ça va être plutôt une vacance. C'est une vacance du pouvoir présidentiel et la suppléance sera effectuée par le président de l'Assemblée nationale qui, lui, sera encore dans son mandat jusqu'au 3 mai 2021. Donc, cette question-là, il faut qu'on le dise aux auditeurs parce que ça se raconte dans les quartiers qu'après l'expiration éventuellement du mandat du président, ça sera une transition. Parce que vous savez, une transition, ça dépend du bon vouloir de différents acteurs politiques de notre pays.
Ok, dernière parole à M. Zenet pour conclure le débat.
Je voulais simplement embrayer sur la question de la fin du mandat du président. Et Dominique m'a dévancé dans ce que j'allais dire parce que la transition ne s'ouvre pas aussitôt. Et il y a des mécanismes constitutionnels qui sont prévus pour assurer, pour combler la période de vacances de pouvoir. Bon, revenons sur la préoccupation relative à la loi organique de l'ANE. La loi organique de l'ANE est une exigence constitutionnelle. Et le département et le gouvernement ont l'obligation de déférer. Et c'est pourquoi, lorsque la loi était retirée, c'est simplement parce qu'il y avait divergence de vue sur le fond de la loi. La loi a été retirée dans le but d'une harmonisation des vues et c'est ce qui se fait en ce moment. C'est ce qui se fait en ce moment. Cette loi sera représentée. Le gouvernement a tous les moyens nécessaires pour représenter à temps, avant l'expiration. Je ne suis pas décideur du temps
mon
l'action
frère,
du gouvernement. Laissez-moi
vous dire que... Vous me permettez que je vous dise. C'est une question, les deux points là. C'est là où on devait vraiment... Sur lesquels on devait débattre ici lors de cette émission. Malheureusement, on a juste passé à côté. C'était des questions fondamentales. La non-adoption de cette loi organique.
Il n'aura pas de non-adoption.
Je dis, même le retard pose le problème de la capacité technique de l'ANE à accomplir sa mission. Ce n'est pas par hasard qu'on a parlé de cette loi. Lorsqu'on finissait les élections de 2016, j'avais demandé, en tant que président du comité stratégique, de faire ce que les Américains appellent les lessons learned, les leçons apprises de cette élection. Et donc, il fallait lister tout et corriger. Vous le savez très bien que l'ANE souffrait de beaucoup de faiblesses, c'est-à-dire au niveau de l'effectif, au niveau organisationnel, au niveau ceci, au niveau cela. Et je crois que ce travail a été fait, des recommandations ont été produites. Si nous voulons améliorer, parce qu'ils sont seulement 7 représentants, quand certains voyagent et d'autres, même dans les réunions de comités stratégiques, ils sont sous-effectifs. Donc il fallait régler ces questions. C'est pour ça que le gouvernement et l'ANE ont compris qu'il fallait, pour leur permettre pour les prochaines élections d'être mieux placés pour faire, il faut renforcer. Donc, moi, je me dis que là, mais jusqu'à quand? Parce qu'il nous reste 10 mois. Il nous reste 10 mois pour aller à ces élections.
Mais que, justement, les honorables députés ont eu une autre vision de ces recommandations.
Ah, mais il fallait leur dire, vous êtes là. Et puis de deux, vous savez que dans le conseil, la convocation de la session extraordinaire, il y a eu plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, on ne voit pas ce projet. Vous allez attendre la session ordinaire, mais en ce moment, on se rapprocherait du début des élections. Comment l'ANE pourra faire ses activités pourra atteindre son objectif?
C'est 10 mois moins 40 jours. Hein. 10 mois moins 40 jours, parce
sur la question de 31 mars, ça c'est une question cruciale. Nous sommes partis de l'expérience de certains pays africains où le mandat du président est terminé. Les gens ont eu un autre mandat plein. Ou bien ils ont fait 3-4 ans. Pour dire qu'ici, quel que soit le résultat, personne n'a le droit de dire que, ah tiens, j'ai pas pu organiser les élections parce que, bon, il y avait les groupes armés qui ont fait ceci, il y a ceci là pour telle raison. Non. Alors, la question, moi, en tant que représentant de la Côte de 2020, en tant qu'homme politique, j'ai la faiblesse d'y penser. Parce que sinon, on va nous accuser, dire, ben voilà, c'est ce qu'ils attendaient. Non. Et c'est pour ça que le risque aujourd'hui, les uns et les autres ont pris conscience pour l'éviter, on dit, on va faire les élections. Même s'ils savent déjà que sur le délai qui nous reste, on ne peut pas le faire. Donc, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose, une idée insinueuse qui est là. Ça veut dire que quoi? Si nous ne faisons pas attention, on va bricoler une élection. Ça s'est passé déjà ailleurs. On va dire, bon, ben écoutez, si on fait sur 25% du territoire, ça suffit. Non, si on fait ceci, cela, ça suffit. C'est pour ça que, dans les jours à venir, nous allons nous asseoir. Vous allez voir comment la COP 2022 va s'organiser pour commencer à mettre sur la table de débat
des propositions concrètes.
Des propositions concrètes, voilà. Oui, pour alarmer, pour tirer sur la sonnette d'alarme et faire des propositions.
Ok, c'est sur ce mot que s'achève notre émission Patara de cette semaine consacrée aux chronogrammes électoraux brandis par l'ANE et par la Cour constitutionnelle en République centrafricaine. Pour en débattre, nous avons reçu M. Mamat Kamoun, ancien Premier ministre, président du parti Beafrika Tiekwe et représentant du Code 2020. M. Mamat Kamoun, merci d'être passé.
C'est moi de vous remercier.
Nous avons reçu aussi M. Thierry Zenet, représentant les pouvoirs publics et cadre du ministère de l'administration du territoire. M. Thierry Zenet, merci d'être de nôtre.
Merci, Adekeluka, pour cette occasion.
Nous avons reçu aussi M. Origine Bekondi, représentant de l'Observatoire national des élections ONE. M. Origine Bekondi, merci d'être passé.
Merci beaucoup, Fernand.
Aussi, nous avons reçu M. Dominique Désiré Erénan, universitaire, enseignant, chercheur en droit constitutionnel à l'Université de Bangui. M. Dominique Désiré Erénan, merci d'être passé.
C'est moi qui vous remercie.
À la technique, c'était le travail de Diane Stéphanie Bokula. Au centre de l'émission, c'était moi, Jean-Fernand Kouena. J'ai bénéficié de l'observation de Claire Assamba. Émission Patara, à la prochaine, même heure, même fréquence. Ne quittez pas la version Sango, c'est tout de suite.